La suite, c'était la démarche d'investigation. Alors bon, là, on a mangé un petit peu de temps. Mise en relation de différents documents sur la démarche d'investigation, définition du dictionnaire, Rocard, texte officiel et exemple de proposition de DI et leur analyse. Alors, il y avait Serge avec le jeu du trésor, Robert avec les rallyes. Et puis moi j'avais des exemples aussi à vous proposer de divers types de démarches d'investigation. Peut-être que je vais te laisser la parole et puis Robert, tu viens avec une clé.
Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne part pas d'une page blanche et puis le travail que l'on va conduire avec vous va reposer sur des travaux conduit et puis on en est actuellement au point où on a pu organiser un petit peu la restitution de ce travail pour le diffuser lorsqu'on a à parler de ce que l'on fait et puis surtout à l'utiliser dans des dispositifs de formation et pas nécessairement et pas uniquement de recherche. Donc le jeu du trésor, alors ce document là je tiens à préciser qu'il a été réalisé grâce un formateur de l'UFM d'Aix-Marseille qui s'appelle Denis Leroy et qui a participé pendant un an et demi à la mise en œuvre de cette ingénierie coopérative et qui, faute de moyens, est sorti du dispositif, mais dans ses heures de liberté, a contribué. Et donc, je voudrais le remercier devant vous publiquement de mettre à disposition. Il s'appelle donc, j'ai dit son nom, son prénom, Denis Leroy. Hein, voilà. Qui travaille avec nous. Donc, en 2004, un certain nombre de chercheurs, de didacticiens, ici des Suisses et des Français, Marie Schubert-Léoni à Genève et Francia de Tenegger, et puis Alain Mercier, Gérard Sansevi, moi-même, ont commencé à interroger les ingénieries de Guy Brousseau, qui datent d'un certain temps, de très longtemps, pour les interroger, premièrement, d'un point de vue de leur implantation dans des classes ordinaires, et deuxièmement, d'étudier et de voir en quoi ils pouvaient correspondre à une démarche d'enquête ou d'investigation mené sous la direction du professeur. Donc on est parti d'un dispositif existant que l'on a tenté de mettre en œuvre pendant 2 ans, qu'on a expérimenté, qu'on a modulé afin de lui faire jouer ce rôle-là dans des classes ordinaires et plus précisément tellement ordinaires qu'elles se situent en ZEP à Marseille. Donc des ZEP marseillaises dont on m'a dit qu'elles avaient, outre l'accent, des spécificités qu'on ne retrouvait nulle part ailleurs. Donc on est très content de pouvoir parler de ça. Donc ce jeu du trésor, je vais vous le présenter très rapidement dans ses principes, sachant qu'il va faire l'objet dans l'après-midi d'un travail plus approfondi avec les collègues du premier degré. Mais je vais donc utiliser ce support-là pour vous en faire une description rapide. C'est un dispositif de longue durée, c'est-à-dire qu'il va durer toute une année scolaire dans des classes de maternelle et de grandes sections de maternelle. Et donc, je vais faire la lecture, ça sera plus simple puisque c'est déjà rédigé. Les élèves vont constituer avec leur professeur une collection de références composée d'une quarantaine d'objets, billes, balles, figurines, taille-crayon, etc. Et un jeu de quilles est réalisé. Bon, 2 objets parmi ces 40 sont sélectionnés et cachés. Les élèves devront être capables de les nommer le jour d'après, enfin le jour suivant. Alors bon, avec quelquefois un jour de trou si on est le mercredi, si le professeur est absent, s'il y a des vacances, s'il y a des sorties, etc. etc. Bien. Petit à petit, le nombre d'objets qui sont retirés de ce trésor et que les élèves doivent restituer va passer progressivement de 2 à 12. Le problème qui va être que vont rencontrer les élèves à l'initiative du professeur, c'est le professeur hein, qui module cette variable-là, et ben c'est de trouver un moyen autre que la mémoire interne pour les retrouver et les restituer. Ce que le professeur attend et que nous allons étudier après cet après-midi, notamment dans la dimension mathématique, c'est que les élèves réalisent une liste dessinée de ces objets. Voilà un petit peu la description rapide. Cet après-midi, je vais l'arrêter là. Donc cet après-midi, on travaillera plus en profondeur sur ce dispositif-là pour essayer de le comprendre. Donc dans ce que nous proposons comme travail, je voudrais prolonger le temps que ça s'ouvre, c'est pas seulement proposer des ingénieries et les travailler collectivement, mais c'est aussi collectivement de penser leur diffusion assurer leur diffusion de façon épistémologiquement stable. C'est-à-dire qu'on travaille aussi, une fois que l'on a constitué ces ingénieries, à rendre compte et à les diffuser de façon plus large à travers des supports, tels que des vidéos, des exemples de mise en œuvre, des faits de transposition.
Oui, donc c'est pas quelque chose qui est issu des travaux menés en collaboration avec l'IFE, c'est simplement une observation que beaucoup d'entre vous probablement ont fait. Je sais que dans beaucoup d'académies, il y a des rallyes qui sont proposés aux élèves. Moi, je viens de l'Académie de Clermont et depuis une douzaine d'années, on organise un rallye niveau 3e seconde. Et je vais vous présenter, à titre d'exemple, un résultat qu'on peut observer dans ce type de rallye. Alors, à Clermont, le rallye d'Auvergne, c'est un rallye qui est organisé en classe entière. Chaque classe a à peu près 6 sujets à traiter et ils ont 2 heures pour ça. Bah déjà, ce qui est assez remarquable, c'est que, sauf exception, il y a quelques classes qui sont là, qui jouent pas vraiment le jeu, mais de manière générale, il y a plus de 100 classes qui participent à... Oui, j'ai pas dit également que c'était les classes étaient des classes de 3e, des classes de lycée, et des classes de seconde, pardon, y compris de seconde professionnelle. Bah déjà, ce qui est remarquable pour un observateur, c'est que les élèves sont dans une salle, éventuellement, comme vous l'êtes, là, organisée avec des tables comme dans cette salle, et très rapidement, ils s'organisent, ils se distribuent les sujets, et par petits groupes de 4-5, chaque groupe, en quelque sorte, prend un problème en charge. Alors, ce que j'ai prévu de vous présenter, c'est un exercice... un exemple de problème et quelques résultats obtenus par les élèves. Alors, un exemple de problème, parmi bien d'autres. Un batelier descend une rivière de 120 km. Il la remonte ensuite et met un jour de plus, car chaque jour il fait 6 km de moins qu'en descendant. Question, combien a-t-il mis de jours pour descendre? Bon. Les gens qui donnent ce type de problème ont quand même une contrainte, c'est que ça doit pouvoir être traité par des élèves qui sont en classe de 3e, sachant que les problèmes sont donnés au mois de mars. Hein, ce qui assujettit quand même les problèmes à donner, en quelque sorte, à un début de 3e, pas plus. Bien, je vous présente maintenant la solution qui a été donnée par la personne qui a donné le problème. Je vais la lire. Un geste mathématique déjà posé par le professeur qui a posé ce problème, c'est appelons n le nombre de jours mis par le batelier pour descendre la rivière, une des inconnues du problème. Lorsqu'il remonte la rivière, sachant que chaque jour il fait 6 km de moins qu'en descendant, au bout de n jours de remontée, il lui restera encore 6 n km à parcourir. Comme il met un jour de plus, il parcourra cette distance en un jour. En remontant, il parcourt ainsi 6 n km par jour, et comme il met n plus 1 jour pour ce faire, nous avons la relation 6 n que multiplie n plus 1 km égale 120 km. Oui, on travaille beaucoup avec les unités, comme le veulent les problèmes actuels. Ce qui, après simplification par, non pas par 6, mais par 6 km, donne n facteur de n plus 1 égale 20. Et de conclure, quel est l'entier, puisqu'on recherche un entier ? Qui multiplié par son successeur donne 20, c'est 4. Donc vous voyez que le problème, effectivement, est bien du niveau 3e. même éventuellement du niveau primaire. Réponse, N égale 4 jours. Alors maintenant, quelles sont les réponses qu'on a obtenues par les élèves? Ben, celle-là n'est pas apparue, véritablement. Alors, une solution là, qui a été proposée par des élèves de lycée professionnel, mais qu'on a retrouvée également chez pas mal de classes de classes de 3e, c'est une solution arithmétique. C'est-à-dire qu'ils ont examiné qu'est-ce qui se passe si c'est un jour, deux jours, trois jours, quatre jours. Ben, un jour, si en descendant, ils mettent simplement un jour pour descendre, ils font 120 km. Donc, pour remonter à ce moment-là, ils en feraient 114 par jour. En deux jours, ça marche pas. Vous voyez, le raisonnement est amorcé comme ça. Ils arrivent à 4. Et à 4, ça marche et ils s'arrêtent là. Alors, en toute rigueur, on peut dire qu'ils ont trouvé une solution, qu'ils n'ont pas démontré que c'était la solution, bien sûr. Mais, niveau rallye, on n'en demandait pas plus. Maintenant, ce qui nous a plus étonné, c'est toute une série de solutions algébriques avec des mises en équation diverses. Alors, les élèves ont exprimé en fonction de x la distance parcourue quotidiennement à la descente et à la remontée et traduisent en équation la différence entre les deux. Leur descente, nombre de kilomètres par jour, c'est 120 sur x, si x effectivement est le nombre de jours. Remontée de kilomètres par jour, alors excusez-moi, là, au niveau du PowerPoint, il y a quelques problèmes de copie, c'est 120 sur x plus 1. Équation du problème, 120 sur x plus 1 égale 120 sur x moins 6. On a trouvé également des mises en équation avec deux inconnues et un système de deux équations à deux inconnues. 120 égale xy. X est toujours le nombre de jours et y c'est la distance parcourue à la descente en un jour. Et 120 également égale x plus 1 facteur de y moins 6. Alors ensuite, difficulté, c'est qu'il y a un certain nombre de ces équations qui vont se transformer en équations du second degré. Ben, on a pas mal de classes qui ont quand même réussi avec le bagage collège ou le bagage lycée de seconde à mettre en équation ces équations du second degré et à les factoriser. Par exemple, certains élèves qui ont remarqué que x2 plus x moins 20, ben, si on cherche à factoriser, il faut en quelque sorte que les constantes qui apparaissent fassent 20 quand on les multiplie. Bon, ben, on ne sait pas comment les élèves ont trouvé, on a simplement le résultat. On a trouvé que x2 plus x moins 20 égale x plus 1 facteur de x moins 4. Ce qui donne une solution négative au passage. Ou encore, x2 plus x moins 20 égale x2 moins 4x plus 5x moins 20 égale x moins 4 facteur de x plus 5. Enfin, c'est quasiment la même réponse que précédemment. D'autres ont écrit encore, bah, il y a la factorisation canonique qui va apparaître. x2 plus x moins 20 égale, bah, si vous prenez x2 plus x comme le début d'un développement, c'est effectivement x plus 1,5 au carré. Il y a un quart en trop, il faut le retrancher. Et donc, vous obtenez x plus 1,5 au carré moins 9,5 au carré. Oui, parce qu'ils ont dû faire un calcul et s'apercevoir que ça donne ça. Il y a d'autres factorisations de ce type.
Solution graphique.
Il y a aussi pour des élèves de seconde qui ont produit une solution graphique avec leur calculatrice. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à une équation avec y, c'est la distance parcourue à la descente en un jour, à une équation du type 720 égale y2 moins 6y. Alors certains ont résolu l'équation directement, d'autres donc ont représenté graphiquement sur leur calculatrice. Alors je ne sais pas parce que c'est pas très lisible, mais enfin il y a un y égale 6x et il doit y avoir un y2 moins 120. Et ils ont regardé l'intersection. Alors il se trouve que l'intersection à la lecture c'est 30, et qu'effectivement, par vérification, 30 va bien donner une solution. Ceci, on pourrait le remarquer à propos pour tous les exercices qu'on propose en rallye. Ce qui fait que la conclusion qu'on peut en tirer par rapport au libellé du stage qui nous réunit ces jours-ci, c'est que. Alors je sais pas si tu as parlé des résultats de PISA. Oui, c'est que contrairement aux résultats de PISA, les élèves français savent faire preuve d'initiative, hein, puisque vous savez que PISA dit que les élèves français, plus que d'autres, sont timorés, il ne faut pas preuve d'initiative. De surcroît, souvent heureuse, parce que faire preuve d'initiative, c'est bien beau, mais il faut qu'elle conduise effectivement à une solution, puisque cela les conduit à une réponse exacte, même si celle-ci n'est pas toujours complètement argumentée. Raison à cela, c'est probablement que le contrat de travail qui est ici avec les élèves pendant ces 2 heures en situation de rallye n'est pas le même qu'en situation didactique ordinaire. Ce qui fait qu'on m'a demandé d'intervenir sur le rallye simplement parce que ça nous pose question. C'est-à-dire que est-ce qu'on pourrait faire que ce type de contrat soit celui fonctionnant en classe ordinaire, qui permettrait effectivement aux élèves de faire preuve d'initiative et ne pas simplement essayer de voir ce que le maître attend d'eux de façon précise. Voilà, j'en ai terminé pour les rallyes.
Voilà, alors bon, j'avais écrit cela, je vais aller un petit peu plus vite. Voilà, alors donc si l'idée dans cette partie de cette matinée, c'était d'essayer de voir un petit peu ce que l'on peut mettre derrière ce terme de démarche d'investigation. Donc Serge vous a montré le jeu du trésor qui a été passé en moyenne et grande section de maternelle, ZEP, à Marseille. Oui, très souvent, on travaille en ZEP, parce que ça montre que si on arrive à faire ça en ZEP, il ne devrait pas y avoir trop de difficultés dans l'enseignement standard. Voilà. Donc Robert, le rallye, hein, avec une question qui relève peut-être aussi, sans doute, sûrement, d'une démarche de recherche, donc d'investigation. Et donc, j'ai fait une investigation sur le mot « investigation ». J'ai mené une investigation et voilà ce que j'ai trouvé. Donc, dans le dictionnaire TLFI, hein, ce dictionnaire en ligne du CNRS, « recherche minutieuse, systématiquement poursuivie sur quelque chose ». Alors, en grammaire, l'investigation d'un thème, c'est la recherche analytique du radical d'un verbe. Alors bon, voilà, je savais pas. Familier, recherche indiscrète, d'accord ? Pousser ses investigations, bon. Investiguer, faire des recherches, bon, ça apparaît au 14e et 15e siècle. Bon, vous avez l'origine, c'est emprunté au latin « investigatio ». Recherche attentive, enquête, dérivée de investigare, rechercher, suivre la trace, d'où rechercher, etc. Bon, en fait, comme le disait Serge tout à l'heure, c'est la traduction française de Inquiry-Based Science Education. Donc, l'enseignement des sciences basé sur l'inquiry, c'est-à-dire l'enquête en anglais. Voilà. Alors, si je continue ma recherche, investigo, bon, c'est chercher, suivre à la piste, à la trace, rechercher avec soin. Donc, j'ai recherché ce que signifie rechercher. Bon, évidemment, je vais me mordre, on se mord la queue, hein, bon, au bout d'un certain temps. Chercher à connaître, chercher avec soin, méthode, réflexion, faire une enquête sur la vie, les activités, la conduite de quelqu'un, exercer des poursuites, c'est hein, aussi. Alors, enquête, j'ai recherché ce que ça voulait dire, et évidemment, c'est une recherche. Donc, j'ai bouclé au bout de 3 pas, en quelque sorte, toute recherche menée dans des secteurs variés, etc. Bon, donc, la démarche d'investigation, si vous voulez, telle qu'on la conçoit, nécessite une question dont on va rechercher avec soin, nous dit-on, dans les définitions. Grâce à une enquête, le recueil de réponses et témoignages des personnes donnant lieu, ensuite, ça c'était la suite, c'était ici, donnant lieu à un rapport écrit, donc on peut imaginer que là, c'est les enquêtes policières, etc. Alors évidemment, ça suppose une question, une enquête, et toute enquête nécessite évidemment d'être dirigée. Il y a un commissaire, il y a des inspecteurs, il y a des indics, si on prend l'enquête policière. Si je transpose, si je veux lancer une enquête, il faut qu'elle soit dirigée en milieu scolaire, donc le professeur va être le directeur de l'enquête, on retombe sur nos pieds. Il faut qu'il rassemble des témoignages, ça c'est l'enquête policière. Donc là, on retrouve, ben, on va essayer de rassembler les tentatives de réponse apporté par les élèves, d'accord ? C'est bien le rôle du directeur d'enquête et donc du directeur, du professeur. Il y a des documents, et on rassemble des documents, nous dit-on ici. Alors, qu'est-ce que ça peut être que les documents au niveau dans la classe ? Ben, évidemment, alors dans les TPE, là, on sait bien qu'il fallait sortir plus ou moins de la salle de classe, faire une recherche sur l'Internet, au CDI, etc. Donc ça va être des médias qui vont informer. En fait, on voit que des médias, il y en a peu dans les classes. Il y a pas de bibliothèque de classe, pas beaucoup. Il y en a quelques-unes à l'école primaire, mais il n'y en a pas dans l'enseignement secondaire ou très peu. Le manuel, on s'en sert un petit peu, mais surtout pour poser les exercices, les énoncés des exercices et des problèmes, etc. Et puis les manuels et rédigés sous forme d'activité, ils informent peu parce qu'il faut faire l'activité pour avoir, si tant est qu'on ait la réponse, bon, etc. Donc, et puis ensuite, ça doit donner lieu à un rapport écrit, c'est-à-dire ce que l'on a découvert. Donc le commissaire Maigret va faire son rapport dans la classe, ce que l'on a découvert va être consigné et ça va être le cours en quelque sorte, les mathématiques qu'il va falloir apprendre, autrement dit ce qui va être institutionnalisé. Bon, donc finalement ma petite enquête sur la démarche d'investigation montre quand même des similitudes entre le sens courant ou exotique, l'enquête policière sur la vie, sur les activités conduites par quelqu'un, etc., et ce qui peut vivre dans une classe. Bien, si tant est que les conditions existent. Alors, j'ai recherché sur l'Internet des propositions de démarches d'investigation en mathématiques. Alors, j'ai trouvé ça. Alors, ça, c'était un lycée professionnel mécanique auto. Il s'agit de l'alésage d'un cylindre. Voilà, alors je ne sais pas si vous arrivez à bien voir ce qui est écrit. Voilà, alors donc, identification. Il s'agit de... Le professeur d'atelier demande à ses élèves de relever les côtes sur un moteur de voiture. C'est une Audi V6 2,5 litres. Voilà, dans le but de calculer la cylindrée totale du moteur et la comparer avec les données techniques du constructeur. Des élèves ont malheureusement omis de relever une des côtes importantes, l'alésage, indispensable pour calculer la valeur de la cylindrée. À partir des données techniques du moteur et de la formule permettant de calculer le volume des cylindres, il faut essayer de retrouver la valeur de l'alésage. Et donc, évidemment, on voit des mathématiques. Bien, alors moi je me suis demandé si ça pouvait rentrer, si c'était crédible. Ce genre de choses. Et donc, c'est quelque chose qui a été proposé à des premières années de BEP, mais qui, finalement, c'est des mathématiques de niveau 3e, quoi, à peu près. Il y a une racine carrée, bon, des carrés, des choses comme ça. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que le mécanicien auto, il a à faire ce travail-là? Ben non, parce que j'ai tapé sur Google à l'alésage du moteur de l'Audi V6 de litre 5 et j'ai obtenu la réponse immédiatement, voilà, sans faire tous ces calculs, etc. Autrement dit, voilà ici une activité. Alors donc, je trouve que le diamètre d'alésage est 78,3 mm, la course 86,4 mm se traduisent par une cylindrée de 2496 cm3. Voilà. Bon. Donc, là, voilà une activité qui n'est pas... enfin, c'est fictif, quoi. Hein, voilà. C'est pas de l'ordre... On peut essayer de faire vivre des mathématiques, mais c'est un peu désuet, quoi. Ça, c'est pas crédible. Deuxième exemple de proposition de démarche d'investigation trouvée sur Internet. Alors là, on est en CM2, le puzzle. Alors le puzzle connaît un grand succès. Voilà, alors qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit, les pièces sont mesurées, le côté du carré A mesure 4 cm. Bon, c'est un carré, hein, excusez-moi, ça c'est la déformation à l'écran. Hein. Bon. Il faut maintenant agrandir ce puzzle. Dans ce carré agrandi, la pièce carré A aura 6 cm de côté. Voilà. Et donc, ici, on demande aux élèves de trouver les dimensions des autres pièces de manière à l'agrandir. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'à l'origine, c'est 4 donne 7, et ça s'est transformé, c'est la transposition didactique de la didactique, ça s'est transformé en 4 donne 6. Bon, on verra d'où ça vient tout à l'heure. Voilà, alors donc, c'est quelque chose qui dure un certain temps, une heure, et puis on ne sait pas trop ce que ça va donner ensuite, c'est-à-dire que les élèves ont recherché, mais qu'est-ce qui est produit mathématiquement, on ne sait pas trop. Voilà. Donc vous faites passer ça aux élèves en CM2, et vous aurez fait de la démarche d'investigation. Alors je vais retrouver ensuite ce puzzle-là. Un grand succès. Alors ça, c'est un document qui vient sur la démarche d'investigation préfacée par un IPR de l'Académie de Créteil. Et donc, ça se passe en sixième. C'est encore l'agrandissement d'un puzzle. Alors, on le voit là-haut. Hein, et donc... je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais ce qui est intéressant, c'est... à partir d'un puzzle carré donné, construire un puzzle, agrandir, le coefficient d'agrandissement est donné par une dimension imposée, enfin il est donné, il faut le calculer quand même, le puzzle agrandi doit pouvoir être reconstitué. D'après Roland Charnay, pourquoi les mathématiques à l'école, ESF. Bien, alors, ici vous avez la fiche avec les compétences et les objectifs. Pourquoi engage-t-on les élèves là-dedans, dans cette démarche qui va durer deux séances d'après le professeur, en sixième. Eh bien, alors pourquoi Pour extraire d'un document des informations utiles, présenter des résultats sous forme appropriée, pratiquer le calcul mental, je vois pas trop, choisir l'opération qui convient à la situation étudiée, utiliser les propriétés d'une figure dans le plan, effectuer des constructions simples avec des instruments, mesurer une longueur et contrôler un résultat. Où sont les maths? Quelles sont les mathématiques que l'on enseigne lorsque on fait passer ce genre de problème auprès des élèves? Alors, se poser la question, c'est y répondre. Parce que ici, donc, voilà la première page avec les objectifs assignés par le professeur à cela. Privilégier la démarche d'investigation avec un minimum de prérequis. Il faut savoir ce que c'est qu'un carré, un puzzle, etc., et des nombres. Permettre à tous les élèves de s'engager rapidement dans la recherche et d'entrer dans le problème. Favoriser les échanges entre élèves au sein du groupe. Rendre les élèves autonomes pour la validation de la solution. Celle-ci se fait par assemblage du puzzle, évidemment. Et savoir rédiger un compte-rendu et l'exposer à la classe. Où sont les mathématiques? Alors, bien sûr, tout ça, c'est des objectifs tout à fait louables, mais c'est un petit peu éthéré, quoi. Ça tient en l'air. Il y aurait bien d'autres situations qui permettraient de privilégier la démarche d'investigation, de favoriser des échanges, de rendre les élèves autonomes et de savoir rédiger un compte-rendu. Bon, alors, évidemment, nous, on se démarque complètement de cela, de ces propositions, parce que si on va donner à rechercher l'agrandissement d'un puzzle, cette situation, évidemment, elle n'est pas nouvelle, elle vient de Guy Brousseau, elle a été passée dans les années 70, elle a donné matière à des publications, à une publication qui s'appelle « Rationnel et décimaux dans la scolarité obligatoire » en 1987, qui fait dans les 300 pages, elle n'est pas isolée, et elle a pour but d'enseigner quoi ? Le produit d'un entier par une fraction, qui est au programme de 6e actuellement. Et pas uniquement de rendre les élèves autonomes, de lancer dans une démarche d'investigation et de rédiger un compte-rendu. Elle est là pour enseigner des mathématiques, et faire en sorte que les élèves, face à cette situation, éprouvent la nécessité de la proportionnalité, évidemment. Alors donc, dans la situation d'origine, c'est 4 qui a grandi en 7. Donc le coefficient est 7 quarts. Alors évidemment, c'est une fraction décimale. Mais ensuite, on va passer à des fractions non décimales. Et ensuite, on va passer à des longueurs de côté qui sont elles-mêmes fractionnaires. Donc on va aller vers le produit de deux fractions, etc. Bien. Qu'est-ce qui se passe quand on enseigne cela? En règle générale, les élèves disent qu'il faut rajouter 3 à chacune des dimensions, puisqu'on passe de 4 à 7. Il y a une situation d'action où ils fabriquent les pièces du puzzle, Et en ajoutant 3, ils s'aperçoivent ensuite que situation d'invalidation, pourrait-on dire, puisque les pièces ne s'assemblent plus. Donc, il y a disqualification de cette stratégie. Et puis, comment ça vient l'idée de la proportionnalité ? Ça vient pas comme ça. C'est-à-dire que le professeur, lui, il va diriger l'étude. C'est-à-dire qu'il va dire, écoutez, la seule chose qu'on connaît, c'est 4 donne 7. Et il écrit au tableau 4 flèche 7. Puis après, vous avez d'autres nombres. Vous avez, j'y vois pas très bien d'ici, mais enfin, vous avez 5, vous avez 2, 3, 4, 5, etc. Et là, il y a un élève qui dit, si je sais que 4 donne 7, alors c'est la disposition qui va enclencher, en quelque sorte, alors 8 donnera 14. Ça sert à rien parce qu'il n'y a pas de pièces qui font 8 dans cette histoire, mais 8 donne 14, alors on pourrait peut-être chercher si on savait 1 pour 1. Et là, l'idée vient de la proportionnalité, donc je vais diviser, etc. Bon, la proportionnalité, bien sûr, elle est rencontrée déjà à l'école. Là, ça se passe au cours moyen deuxième année. Elle est rencontrée en acte dans la vie courante, bien entendu. Donc, il y a déjà une connaissance de cela. Bien. Et donc, quand je reprends rationnel et décimaux dans la scolarité obligatoire, là, je vous ai juste tiré la page de couverture et un extrait de la table des matières, vous voyez que la situation du puzzle arrive dans le module 8 et qu'elle concerne la similitude et qu'elle va se poursuivre ensuite par tout un enseignement. Là, ce n'est qu'une page, je n'ai pas amené parce qu'il est trop lourd, rationnel et décimaux. Et il y a 16 modules qui permettent d'enseigner à partir de qu'est-ce qu'une fraction, à partir de la mesure de l'épaisseur des feuilles de papier. D'accord ? Donc il y a une situation où on va éprouver la nécessité d'un savoir mathématique pour mesurer l'épaisseur d'une feuille de papier. Et donc il y a une question génératrice. Bien sûr, les fractions, elles servent à bien d'autres choses, mais en l'occurrence, la transposition qui a été faite là, c'était comment faire pour arriver à mesurer l'épaisseur d'une feuille de papier. Bon. Alors, les élèves se lancent dans la règle graduée, ça va pas, le pied à coulisse, ça va pas non plus. Puis, il y a un moment où il y a des élèves qui ont, il suffit d'en prendre une certaine épaisseur, quoi. On va en prendre 30, puis on va mesurer. Et là, évidemment, voilà deux nombres qui permettent d'en représenter un seul, la longueur, si je peux parler comme ça, de l'épaisseur de la feuille de papier. D'où la nécessité d'avoir deux nombres pour en représenter un autre, une fraction. Bon, et puis évidemment, on va les ajouter. Il suffit d'ajouter des épaisseurs différentes, de mettre des feuilles les unes sur les autres. On va les soustraire. On a des cartons. Puis après, là, on a l'agrandissement. Et puis, ça va très loin comme ça, puisque ça va jusque aux fonctions linéaires, au cours moyen. Bon, donc c'est tout à fait faisable d'enseigner cela. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'était que ce que l'on va retrouver dans la littérature, bien souvent, c'est des propositions soit déconnectées. C'est le cas du puzzle, soit pas crédible. Tous les élèves ont des téléphones portables 3G. Je cherche l'alésage du cylindre du moteur d'Audi. Et là, le prof, il est mort. Là, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous me faites faire des choses complètement inutiles. Les maths, ça sert à rien. Voilà, on retombe là-dedans. Ou alors, il y a d'autres choses. Donc là, il y a les rallyes. Évidemment, ça rentre dans la démarche d'investigation. Il y a ce que Serge a montré. Il y a des choses qui ont été faites encore dans un collège de ZEP à Marseille. Alors, ça, c'est hors temps scolaire. C'est le mercredi après-midi avec des élèves volontaires de ZEP. Donc, faut le faire déjà. Alors, c'est à l'époque où il y a eu le crash boursier de 2008, la faillite. Et donc, la question qui se posait, c'est, les élèves avaient entendu parler à la radio ou lu dans les journaux, parler de trillions. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un trillion ? Effectivement, c'est utilisé aux États-Unis. Ça permet d'avoir des grosses quantités de dollars. Voilà. Alors donc, encore une recherche, c'est-à-dire que ils ont recherché sous la direction d'un prof, bien sûr. dans un dictionnaire en ligne une réponse, un trillion, ce serait un milliard de milliards. Mais un autre dictionnaire définit le trillion comme égal à un million de billions. Alors qu'est-ce que c'est que le billion ? Bon, vous voyez ? Et là, ça y est, à la fois en se lançant dans l'enquête, en recherchant, on va tomber sur des informations qui méritent à elles-mêmes d'être creusées. Et donc on retombe dans ce qui était dit tout à l'heure, programme hors programme, quoi. C'est-à-dire que à un moment donné, on va arrêter la recherche, quoi. Il y a des choses, on ne va pas aller rechercher. Bon, là, la recherche est complètement ouverte, bien entendu. C'est le mercredi après-midi, on a le temps, etc. Bon, et qu'est-ce qu'alors qu'un billion ? Alors, le dictionnaire précise qu'un billion vaut un million de millions. En s'aidant du comptage des zéros, l'atelier conclut finalement que les deux définitions s'accordent. Ah, tiens, c'est des élèves de quatrième, les puissances de 10 sont au programme de quatrième. Intéressant. Bon, alors donc, voilà une question qui a été posée. Au passage, les questions viennent des élèves dans ce cas. Hein. C'est un petit peu comme dans les TPE, où il y a un cadre, puis après, il y a des questions qui turlupinent un petit peu les élèves, et ils aimeraient bien aller y voir dans ce cadre-là, quoi. Voilà. La recherche se fait grâce à l'Internet. Ah, bon, donc il faudrait que, si je veux faire vivre ce genre de choses, il me faut un cadre dans lequel je vais avoir l'Internet, quoi. Alors, il y a des salles informatiques, il y en a de plus en plus maintenant, dans lequel on pourrait mener ce genre d'enquête. Voilà. Mais une page du site web du quotidien Les Échos propose un trillion, c'est 1 000 milliards de dollars en plus. Bon, là, on a la grandeur, dollars. on n'a pas uniquement le scalaire. Bien. Alors, l'atelier examine un document en anglais. Tiens, ça fait travailler l'anglais, ça. Eh ben, tiens, voilà. Alors, voyez, là, on est dans une recherche relativement vaste, quoi, pluridisciplinaire. Where does one billion this? Non, je le dis pas en anglais. On y lit que ce serait le cas, notamment aux États-Unis, mais aussi en France, before 3rd of May 1961. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette histoire du 3 mai 1961 ? D'où ça sort ? Et voilà, de nouvelles questions qui surgissent de l'enquête. En fait, il y a un décret qui a été pris au journal officiel du 20 mai 1961 qui définit en France ce que c'est que le billion. Et c'est pas la même définition qu'aux États-Unis parce que, voilà, alors ça marche par je sais plus trop quoi, par multiple de 6, si j'ai bien compris. 6n, d'accord. L'exposant, c'est codifié en France de cette manière-là. Et voilà. Donc on a mené une petite enquête qui était ouverte, hors temps scolaire, qui a permis de rencontrer bon un peu d'économie, un peu d'anglais, un peu de mathématiques, et aussi la loi, en quelque sorte, parue au journal officiel. Bien. Donc, tout cela pour dire que derrière ce terme de démarche d'investigation, on va trouver beaucoup de choses, quoi. Hein. On va trouver des choses qui sont pas satisfaisantes de notre point de vue, puis des choses tout à fait satisfaisantes, mais bon, faut voir ce qui est réalisable dans le cadre scolaire ou pas. Hein. Je disais, alors, ici j'ai fait un petit tableau récapitulatif. Divers types d'enquêtes ou de recherches dans un cadre scolaire. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Il peut y avoir du disciplinaire ou du codisciplinaire. Il peut y avoir du finalisé par un programme ou du non finalisé, c'est-à-dire ouvert. Et par exemple, l'histoire du billion, c'était absolument ouvert. Le professeur ne savait pas où la recherche allait le mener, comme les élèves, bien entendu, hein, bien sûr. Personne ne s'est posé cette question-là auparavant. Alors, donc, si j'essaye de classer les choses... Ici, alors je vais partir, vous voyez qu'il y a deux flèches là, nous ce que l'on va faire c'est de l'ingénierie didactique. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut avoir à l'extérieur de cela ? On peut avoir du codisciplinaire. Alors du codisciplinaire, dans les prescriptions institutionnelles, on va le trouver par exemple dans les thèmes de convergence au niveau du collège. On va le trouver en TPE au niveau du lycée. On va le trouver... à l'école primaire où le professeur, évidemment, étant polyvalent, peut enseigner avec une même question plusieurs choses, quoi, plusieurs disciplines. Alors, ça, c'est quand même finalisé. C'est-à-dire que ça s'inscrit à l'intérieur d'un programme. Mais c'est codisciplinaire. Si on regarde les thèmes de convergence, il y a dans le bulletin officiel, dans les programmes, vous avez cela. Vous avez le non finalisé. Alors, le non finalisé disciplinaire. Alors, par exemple, c'est les problèmes ouverts type de ceux que l'on trouve à Lyon. Hein, vous avez des brochures de Arsac, Charnay et d'autres. L'IREM de Lyon a été très productif dans ce domaine-là. Récemment, bon, une de nos collègues a fait une thèse sur la recherche de la conjecture d'Erdos-Strauss. Bon, elle dit que toute fraction du type 4 sur n peut se décomposer en 1 plus x plus 1 plus y plus 1 sur z, de manière unique. Bon, c'est une conjecture, donc on a la démonstration pour quelques valeurs de n, mais on n'a pas la démonstration générale. Ça a été posé à des élèves de terminale S, et elle a fait un travail là-dessus. La recherche en mathématiques aussi, elle est disciplinaire, mais évidemment, celui qui cherche ne sait pas forcément où la recherche va le conduire. Donc voilà des recherches disciplinaires non finalisées. Et puis vous avez des recherches non finalisées codisciplinaires du type TPE, questions ouvertes, comme celle que l'on a vue avec le billion, etc. Bref, alors nous, le cadre dans lequel on s'est placé, justement parce que il y a des contraintes, si on veut les implanter dans le système éducatif, ces démarches d'investigation seront finalisées par, je l'ai dit tout à l'heure, par le programme, et elles sont disciplinaires, c'est-à-dire qu'elles se font en mathématiques. Ce qu'on va vous proposer, ce qu'on vous montrera dans les jours qui viennent, ce sont des démarches d'investigation dans ce cadre-là, en mathématiques et du programme. Voilà, alors donc, le terme démarche d'investigation, c'est vraiment quelque chose de très large, et nous, ce qu'on a essayé de voir, c'est, compte tenu des contraintes dans lesquelles on évolue dans le système éducatif, bon, qui sont, par exemple, Serge le disait tout à l'heure, des contraintes horaires. Bon, si je veux lancer une recherche longue et que j'ai que 55 minutes, ben voilà une contrainte, bien sûr. Bon, comment faire ? Voilà. Donc, on a essayé, il y a certaines contraintes qu'on a conservées parce qu'elles touchent à l'organisation de l'école, et donc on ne peut pas, sauf modifier les horaires comme c'est le cas en TPE, hein, avec deux professeurs, etc., regroupés sur un semestre. Mais si on veut le faire vivre dans l'enseignement standard, on ne peut pas. Et puis disciplinaire aussi, parce que ben, on sait bien qu'en dehors de l'école primaire, ensuite, les professeurs sont monodisciplinaires et que la codisciplinarité a bien du mal à vivre s'il n'y a pas les structures mises en place pour cela. Voilà, c'était un petit tour d'horizon sur ce qu'on pouvait trouver sur la démarche d'investigation.